ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est le fruit d'une lecture. Déjà l'année passée, je me suis dit un jour, quand même, qu'on en parle à l'église. Et c'est un excellent ouvrage de mon ami Nicolas Guillet, qui parle de la maison retournée à Bethel, c'est le titre, retournée à Bethel, et il parle de la maison de l'intimité. Et donc, c'est ce que j'aimerais exposer cette fois-ci, puis une autre fois dans l'été, donc ce sera en deux temps. Et donc, ce qui encourage ce matin, il y a un appel dans la louange à venir à l'intimité. C'est vraiment, si on peut retenir une thématique de cette louange, c'est ça, venir à l'intimité de Dieu. Et le texte de base, c'est le texte dans Genèse, le livre de la Genèse, chapitre 28, versets 10 à 17. Vous savez, c'est l'épisode où Isaac envoie son fils Jacob pour chercher une épouse, non pas dans Canaan où ils sont là, mais dans leur famille, chez Laban. Et donc le contexte, c'est que Jacob se retrouve séparé des siens, tout seul dans le désert, sachant pas vraiment ce qui va lui arriver, les aventures qu'il va vivre. Et donc ça commence là. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. » Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu l'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion, au Midi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta postérité. Et voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Et Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Et il eut peur, et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Donc voilà, ça c'est la révélation, Dieu qui parle à Jacob, et tout d'un coup il réalise qu'il y a la présence de Dieu, il l'appelle la maison de Dieu. Dans les Écritures, le thème de la maison revient très souvent. Et en hébreu, c'est Baït, justement. Et Baït, la lettre hébraïque, si on parle de lettre hébraïque, c'est un cercle qui n'est pas fermé. Et qui est à la fois, là, ça parle de protection, mais il est ouvert à l'extérieur aussi. Et ça parle d'ouverture. Donc c'est la notion de famille. Au niveau de dans la pensée hébraïque, la lettre même, Baït, le B, qui veut dire maison, nous parle aussi de cette dimension-là. Mais donc la maison dans la Bible, c'est là que Dieu nous invite. En fait, la maison de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est là où Dieu parle. C'est là, ça nous parle de famille, d'enfants, etc. Et vous savez, le psalmiste hein, David qui disait, « Moi, je demande une seule chose à l'Éternel, hein, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence, admirer son temple. » Et vous savez, cette petite maison qui était le tabernacle dans le désert que le peuple juif a amené, ce tabernacle s'appelait aussi, on le mettait dans une tente, la tente de la rencontre. Dieu aime rencontrer. Dieu est un Dieu de maison. Et il y a différentes maisons dans les Écritures. On ne va pas s'attarder à toutes. La plus grande maison dans les Écritures, c'est l'univers entier. L'univers, c'est la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu. On voit ça dans les Écritures. Ensuite, la maison, deuxième facette, c'est le peuple de Dieu. Nous sommes, ce matin, une maison. On n'est pas la seule, mais on est une maison de Dieu. Voilà, le peuple de Dieu, c'est sa maison, Éphésiens 2. Troisième dimension de sa maison, eh bien, c'est notre corps. C'est impressionnant à réaliser, mais nous sommes une maison. L'être humain, le corps humain, est un temple. Et ce temple est appelé à accueillir la présence de Dieu. Nous sommes un temple. C'est une grande révélation, ça, des Écritures. La destinée d'un homme, c'est d'être le temple de Dieu. Et puis nous avons aussi l'autre dimension, c'est, vous savez qu'il y a un tabernacle dans le ciel. Dans l'Épître aux Hébreux, il est question de ce tabernacle céleste, et dans ce tabernacle, il y a le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, et Jésus, il a déchiré le voile, et il y a des appartements, il y a des maisons de Dieu. Dans le livre des Cantiques qu'on a chanté, il y a un moment, il est dit, fais-moi entrer dans tes appartements. Donc c'est-à-dire que la présence de Dieu, on n'a jamais fini de connaître les aspects de la personne de Dieu. Et il est comparé à une maison avec des appartements, des chambres. Et Nicolas Guillet prend cette image de la maison pour nous introduire, nous encourager à développer une intimité avec Dieu qui a plusieurs facettes. 1 Corinthiens 6, hein, il est dit, ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple de l'Esprit qui est en vous, vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Glorifie donc Dieu dans ce corps. Donc là, on voit, je reviens à l'épisode qu'on vient de lire avec Jacob, il dit, voilà, ça c'est la maison de Dieu, ça c'est la porte du ciel, la porte. Alors, il a eu cette image de la porte de la maison. Ça vous dit quoi dans le Nouveau Testament, la porte? C'est quoi la porte? C'est qui la porte? C'est Jésus. Jésus dit, je suis la porte. Intéressant, comme je suis le chemin, la vérité, mais ici, je suis la porte. Et lorsqu'il dit, nul ne vient au Père que par moi. On parlait de brebis tout à l'heure avec Christine, mais je suis la porte des brebis. Donc Jésus est la porte. Il n'y a aucune autre entrée dans la maison de Dieu que par la porte. Et la porte, c'est Jésus. Donc ça, c'est vraiment capital, c'est la base. La porte, c'est aussi un lieu d'autorité. Les anciens des villes se mettaient aux portes des villes pour gouverner, s'occuper des affaires, du commerce, des affaires. Donc être à la porte, c'est aussi un lieu d'autorité. Et Dieu nous appelle à la porte avec lui. C'est-à-dire que la vie chrétienne, c'est pas seulement une intimité avec le Seigneur dont on se réjouit et dont on pourrait se gargariser, mais c'est une intimité qui nous conduit à être à la porte avec lui, c'est-à-dire s'occuper de ses affaires à lui aussi, c'est-à-dire du monde entier. Donc voilà, Jacob a vu cette porte, et j'aimerais simplement nous rappeler qu'il n'y a qu'une seule porte pour rentrer dans cette maison de Dieu. Mais il voit ensuite une vision d'une échelle. Alors, cette vision de l'échelle, ça symbolise la recherche de Dieu. Ça symbolise la recherche. Une échelle, il voit, c'est plusieurs barreaux, hein, on ne sait pas jusqu'où ça montait au ciel, mais c'était peut-être infini ce truc-là. Ça nous parle de la dimension de la recherche de Dieu. Et en tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés à le chercher. Et parfois, on peut, bien sûr, il se laisse trouver. Mais quand il se laisse trouver, c'est comme dans le Cantique des Cantiques, hop, il va plus loin. Et c'est la fiancée qui dit, ah, ça y est, j'ai mon fiancé, il est là. Et ensuite, ah bah zut, il est parti, il est plus là. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je veux que tu ailles plus loin. Tu te contentes jamais. Et c'est comme une échelle avec des barreaux. Imagine que tu restes sur un barreau, c'est impossible. C'est inconfortable au possible. Si tu stagnes sur un barreau, tu es mal barré. Excusez-moi le mot. Nous sommes appelés à gravir cette échelle. Et c'est Nicolas qui donne cette image, je trouve intéressant. Une échelle, c'est faite de deux grandes barres verticales et de barreaux horizontaux. Et il dit que c'est une image, et je trouve que c'est une bonne image. Pour rentrer, pour chercher Dieu, il y a deux barres verticales. La première barre, c'est cette parole de Dieu, c'est une barre verticale, c'est-à-dire elle nous conduit, elle nous dirige dans la connaissance de Dieu. Elle est solide, c'est un point d'appui. La deuxième barre, c'est l'Esprit de Dieu. C'est cet Esprit vivant, cet Esprit qui vit en nous, cet Esprit qui souffle, cet Esprit qu'on a prié dans la louange tout à l'heure. Viens, souffle des quatre vents. Donc on a besoin de la parole et on a besoin de l'Esprit. Et chaque fois, bien sûr, que on n'est que dans un côté, la parole toute seule, ça devient du dogme, ça devient de la loi, ça peut devenir de la loi rigide, Et du coup, ça ne mène pas la vie. Mais d'un autre côté, l'esprit, tout seul, alors c'est la vie, c'est l'expérience et tout ça. Mais sans cette parole, ça peut nous entraîner dans des choses bizarres. On a besoin des deux. Donc les deux barres verticales, l'esprit et la parole. Ça, c'est un équilibre intéressant. Et les barreaux, ça nous parle du fait qu'il n'y a pas de passivité, il n'y a pas de place à la passivité dans notre relation avec Dieu. Il y a une échelle. Alors, il voit les anges qui montent et qui descendent. Ça nous parle du message de Dieu. Dieu qui veut parler. Il veut nous parler. Il a des choses à dire. Aujourd'hui encore, il y a une échelle pour chacun de nous. Donc, il a des choses qu'il veut nous dire et nous partager. Et à chaque barreau que l'on est appelé à gravir, eh bien, c'est chaque fois un Dieu où Dieu nous parle. Mais le signe que c'est vraiment la maison de Dieu, c'est ce qu'a ressenti Jacob. Il a dit, waouh, ce lieu est redoutable. Et Jacob a vécu un moment de crainte de Dieu, un grand respect envers Dieu. Et ça, c'est la marque d'une rencontre avec Dieu authentique. C'est quand elle s'accompagne d'un profond respect. Quand on dit respect de Dieu, ça veut dire le respect des uns et des autres. Ça veut dire aussi le respect de l'humanité. Ça veut dire le respect de son frère et de sa sœur. Ça veut dire le respect du plus grand des pécheurs, parce qu'il est à l'image de Dieu. Respecter Dieu, c'est respecter l'humanité. C'est ça, cette dimension du respect, donc de crainte de Dieu. Et voilà, donc ça, c'est la marque de Jacob. Et puis, ce lieu-là, cet autel qu'il a bâti, ce lieu s'est appelé Bethel. Donc Bethel, qui veut dire maison, Bethel, la maison de Dieu. Pourquoi la maison? Parce que c'est un Dieu où Dieu parle. Et 14 ans plus tard, quand Jacob, après être allé avec Laban, avoir trouvé son épouse, avoir eu ses enfants avec ses chameaux, avec tout son attirail, quand il revient à ce lieu, Dieu lui dit, nous sommes à Genèse 35, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeure-y, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü. Et 14 ans après, il revient dans ce lieu-là. Il y a des moments où Dieu nous appelle à revenir à Bethel. Je ne sais pas où on en est, nous tous. On a eu notre Bethel, notre première révélation, si vous voulez, de Dieu. Un Dieu qui nous sauve, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui change nos vies. Et après, on a voyagé. On a voyagé. Il y a eu des Labans. Il y a eu des temps de travail. Il y a eu des temps d'esclavage, parfois. Je ne sais pas. Mais Dieu dit, reviens à Bethel. Reviens à Bethel. Et Bethel, cette maison de Dieu, on l'appelle la maison de l'intimité. Dans la maison, dans une maison en général. Hein. Alors ça, c'est une image. Hein. Ce n'est pas dans la Bible, c'est ça que je vous raconte. C'est une image. Mais dans une maison, en général, il y a un jardin, il y a une salle de séjour, il y a une cuisine, il y a la chambre des enfants, il y a la salle de bain, il y a la chambre des parents, il y a un bureau, il y a un grenier. Voilà en gros une maison. Et dans ce livre intéressant, chaque pièce nous parle d'une dimension de la recherche de Dieu et de l'intimité avec Dieu. Et la chambre, on va commencer, si vous voulez, notre voyage. On va pas faire toutes les pièces, hein, mais on va en faire quelques-unes. Et je vous invite à commencer par la chambre des enfants. La chambre des enfants. Et la visite commence par là. Pourquoi ? Parce que les enfants, ils connaissent le Père. Ils savent qu'ils sont enfants du Père. Donc la vie chrétienne, ça commence comme ça. Je me sais enfant. Je connais mon Père. Ça commence par cette chambre des enfants. Et dans la chambre des enfants, eh bien, on s'amuse. Il n'y a pas de soucis. Il y a une relation avec le Père. Il y a une sécurité. Il y a tout ça. Il y a de l'intimité. Et voilà, c'est cette dimension de l'amour du Père. Il y a une dimension expérimental, connaître le Père. Et vous savez, moi j'ai connu des gens, après 30 ans de vie chrétienne, connu Jésus, le salut, tout ça, mais ils n'ont pas connu cet amour du Père. On peut vivre une vie chrétienne sans jamais vraiment avoir connu le Père. Et c'est ça, cette première chambre, c'est une chambre, tu es enfant du Père, aimé de façon inconditionnelle. Et puis donc, il y a une dimension expérimentale. Et puis il y a une dimension de compréhension de cet amour. C'est qui le Père? Pourquoi je peux lui donner confiance? Donc vous voyez, deux dimensions. Mais Il y en a qui sont sur la dimension, ils peuvent parler du Père, vous disserter tout ce qu'ils veulent, bibliquement, mais il n'y a pas eu d'expérience de la paternité de Dieu. Et inversement, il y en a qui se contentent de l'expérience et qui ne pourront jamais argumenter, s'asseoir sur la parole en disant « Voilà qui est le Père et pourquoi il nous aime, etc. » Donc, voyez, l'expérience est fondamentale, mais c'est une expérience qui doit être ensuite enracinée dans la connaissance. Éphésiens 3, verset 14-19, « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel son nom toute famille tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Vous avez marqué ici, il est dit que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, ça c'est l'expérience. Et ensuite il est dit, et que vous puissiez comprendre, ça c'est la compréhension. Donc on a les deux ici. On a besoin de l'expérience, de l'amour du Père, et on a besoin de la compréhension de cet amour. Et ça change tout, ça change tout. On pourrait, il y a sûrement des témoignages au milieu de nous, mais cette connaissance du Père a sûrement pris du temps. C'est pas venu tout de suite. Et j'aime bien cette définition, rappelez-vous, que je vous ai déjà donnée. Qu'est-ce qu'être un... Parce que nous sommes tous appelés à être des pères et des mères ensuite. Hein. Mais on ne peut pas être des pères et des mères si on n'est pas d'abord des enfants, des fils et des filles. Et il y a parfois des adultes qui, si vous voulez, qui ont une sorte d'enfant en eux qui n'a jamais connu l'amour du Père. Et il y a cette partie d'eux-mêmes qui n'a jamais grandi. Et ça explique souvent des colères, de l'immaturité, de l'insécurité, parce qu'il y a un petit enfant qui a besoin de connaître le Père, quel que soit l'âge que nous avons. Donc, cette chambre des enfants, elle est tellement importante. Et parfois, même si on est déjà âgé quelque part, on a besoin de revenir dans cette chambre des enfants. Parce que nous restons des enfants jusqu'au bout de notre vie. Voilà, nous restons des enfants. Et je pense que ça c'est vraiment... Moi j'ai eu l'occasion de voir... j'étais avec mon fils, ma belle-fille et les quatre enfants. Et j'ai pu voir, donc on a vécu tous les jours, pendant 10 jours. Là. J'ai pu apprécier combien il jouait avec ses enfants. Et je lui ai dit à la fin, je lui ai dit, vraiment tu es un bon papa. Et les enfants eux-mêmes, ils m'ont dit, j'aurais rien demandé. Hein. Ils m'ont dit, on a un bon papa. Il joue avec nous. Et il est rigolo. C'était les deux choses. Donc, voilà, il joue avec nous. Donc ça, c'est important. C'est cette image du Père tellement importante. Une image tordue de Dieu amène des comportements tordus, tellement, tellement légalistes. On fait du mal à Dieu. Donc je vous invite à venir dans cette chambre des enfants et à la revisiter. Donc on commence par la porte qui est Jésus. Seigneur Jésus, je crois en toi, viens dans ma vie. Cette porte nous ouvre dans la maison et dans la maison, on vient dans la maison, la chambre des enfants. Alors, deuxième pièce que je vais vous visiter, c'est la salle de bain. Alors, la salle de bain, alors ça va être la chambre, on va appeler la chambre où on se lave, la chambre de purification. Alors, c'est intéressant parce que quand on vient au Seigneur, la vie chrétienne, ça commence par « je suis lavé ». Je suis lavé par quoi ? De mes péchés, de mes fautes, par le sang de Jésus. Et alors, on a l'impression qu'on n'a plus besoin de se laver. Ça a été fait une fois pour toutes. Et la Bible dit « on a été lavé par le sang de Jésus une fois pour toutes ». La réconciliation avec Dieu, ça a été fait. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de la salle de bain ? Eh bien, la Bible dit qu'on a besoin de la salle de bain. Alors vous allez me dire, mais où ça ? Jean chapitre 13, versets 3 à 10. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge dont il se ceignit. Et ensuite il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds de ses disciples, à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Et Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Et Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Et Simon-Pierre lui dit, « Mais Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Et Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes pur, etc. » Donc, l'idée, celui qui est lavé, quand on vient au Seigneur, il nous lave. Il nous lave, il nous pardonne. Il nous réconcilie avec lui. Ça, c'est acquis pour tout. Il n'y a plus besoin de recommencer. Mais, il y a besoin de se laver les pieds. Et Jésus le dit lui-même. Hein, il n'y a besoin que de se laver les pieds. Et bien, quand on marche dans la vie chrétienne, il y a de la poussière sur la route. Il y a des choses parfois qui collent, qui peuvent même nous engluer. On a besoin de se laver les pieds. Moi, j'étais en sandales là tout l'été, mais je peux vous assurer que le soir, il faut se laver les pieds. Surtout dans une ville comme Toulon, c'est pas évident. Donc, il y a besoin d'être lavé. On vit dans un monde qui est pas facile. On vit dans un monde où il y a de la méchanceté, où il y a du mensonge, de la corruption, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Et donc, il y a besoin régulièrement de passer à la salle de bain. La Bible parle de Dieu parle de la Bible comme de l'eau qui lave. Donc le contact de la parole de Dieu lave notre âme, notre esprit. C'est intéressant de voir cette image de la Bible comme de l'eau qui nous lave. On a besoin régulièrement de passer dans cette salle de bain. Et donc, bien sûr, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Attention à ça, il n'y a pas de condamnation. Mais il y a besoin de se laver régulièrement. Et puis, franchement, qui c'est qui, dans sa vie chrétienne, ne trébuche pas, ne tombe pas, ne se sent pas souillé parce qu'il voit ce qu'il entend. Et parfois, vous savez, on peut avoir un cœur droit avec Dieu, mais les soucis peuvent aussi te peser, quoi. Donc Dieu dit, il faut te laver régulièrement. Et voilà. Donc, et puis, dans une salle de bain, il n'y a pas seulement l'eau du lavabo, mais il y a des glaces. Alors, il propose... Alors, en général, il y en a une, mais là, c'est une salle de bain avec trois glaces. On va me dire, oh là là, trois. Je ne sais pas qui c'est qui a trois glaces dans cette salle de bain, mais là, cette salle de bain, cette maison de Dieu, elle a trois glaces. Pourquoi trois glaces? La première, c'est pour se voir tel qu'on est. Alors, ça, j'aime bien cette idée, c'est que, voilà, je me vois tel que je suis. Alors, avec les boutons, avec les défauts, avec... voilà. La vie chrétienne, c'est pas une vie de bisounours où on s'évade, vous voyez. On voit la réalité. On se voit tel que nous sommes aussi. Et on a besoin de régulièrement se voir tel que nous sommes. Voilà. Jésus a dit, je suis venu pour les malades. Ceux qui ne se croient pas malades, ceux qui se croient parfaits, ils n'ont pas besoin de Jésus. Donc, il y a besoin de ce sentiment de, j'ai besoin, Seigneur, que tu viennes. Donc, alors, si on reste trop longtemps dans cette glace, on va déprimer. Parce que, heureusement qu'il y a d'autres glaces, mais, vous voyez, parce qu'on voit tout ce qui a changé. Voyez. Mais si on est dans le contentement perpétuel en disant, qu'est-ce que je suis content d'être comme je suis, on ne va jamais vouloir avancer. Donc, de temps en temps, il faut se regarder dans la glace. Et parfois, Dieu permet que l'on vive dans des situations, tout d'un coup, waouh, je ne pensais pas que j'en étais encore là. Eh ben oui, voilà, tu te vois dans la glace. Mais heureusement qu'il y a une deuxième glace. Il y a une deuxième glace, c'est la glace où on le voit lui. On voit Jésus. On est appelé à le contempler. On est appelé à développer une relation avec lui, à fixer nos yeux sur lui, à les détourner de nous-mêmes et à les fixer vers lui. Et lui, il est parfait. Lui, il est beau dans ses actions. Quand on lit l'évangile, quand on lit sa parole, quand on voit ce qu'il dit aujourd'hui encore, eh bien, ça, quand on contemple sa vertu, son caractère, eh bien, il y a quelque chose qui fait qu'on a envie de lui ressembler. Donc ça, c'est le voir lui. Et donc ça amène à de la reconnaissance, ça amène à de l'adoration, ça amène à une transformation. Dans le deuxième livre aux Corinthiens, il est dit, chapitre 3, « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. » En fait, ce que l'on contemple, on le devient. On ressemble à ce que l'on adore. Donc, Dieu nous appelle à prendre du temps avec cette glace-là, dans la salle de bain, de l'intimité, de la maison de l'intimité, à le regarder lui, à prendre ce temps de le contempler, de l'écouter. C'est ce qu'on appelle la méditation, c'est ce qu'on appelle l'adoration, et il y a une transformation qui se fait. La transformation chrétienne, du chrétien, se fait quand on adore. Par exemple, quand on a pris du temps pour chanter, pour louer, ça c'est le contempler lui. Quand on a chanté tout à l'heure ce qu'il a fait, passage à la croix, sortie du tombeau, ça c'est la glace, c'est sa glace à lui. Donc on le regarde lui, ça peut être par le chant, ça peut être par la méditation, ça peut être par l'écriture. Fixez nos yeux sur lui, ça c'est important. Et vous allez me dire, mais alors, la troisième glace. Alors d'après vous, alors la première glace, c'est se voir tel qu'on est. La deuxième glace, c'est de le voir lui. Et la troisième glace, mais oui, c'est se voir nous en lui. C'est voir notre nouvelle identité en lui. Qui nous sommes en lui? Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des pécheurs, mais nous sommes des saints, des parfaits, qui parfois péchons. Nous avons changé de nature. Et donc ça, on se voit en lui, nous sommes en lui, on est aimé de lui. Et Dieu veut nous appeler à nous voir nous-mêmes comme lui, il nous voit. Et vous savez, un des baromètres, comment tu regardes tes frères et tes sœurs? La manière dont tu regardes ton frère et ta sœur, ça t'indique là où tu te regardes toi. Très rapidement. Donc si tu vois et tu as envie d'honorer, de louer, de dire ouais, tu vois le bon, tu vois l'image de Dieu, et bien ça montre que tu vois toi-même cette image de Dieu en toi, voyez. Donc ça c'est un baromètre. On a besoin de se voir dans ce miroir tel que Dieu nous voit, c'est-à-dire des fils et des filles, un potentiel divin, un appel divin, une race royale. Donc tout ça, ça nous parle de cette glace, de l'identité, se voir en lui. Et la clé de l'intimité avec Dieu, c'est cette relation avec le Saint-Esprit, en fait. C'est lui qui nous conduit et qui nous rappelle qui nous sommes dans le Seigneur. Et ça me paraît, cette glace est importante. Et il y a une transformation. Le Saint-Esprit est là. Jésus, il est assis à la droite du Père. Il a envoyé son Esprit. Et l'Esprit est là pour amener toute cette transformation, nous amener dans ces salles, dans ces pièces, dans ces appartements, et nous conduire de chambre en chambre, et dans cette salle de bain en particulier, nous amener du premier miroir où tu te vois toi et tu commences à déprimer. Et ensuite tu le vois lui, tu commences à espérer, et ensuite tu commences à te voir toi en lui, et alors là tu deviens, il y a une stabilité qui est là. Ça n'empêche pas que régulièrement, on a besoin des trois miroirs, régulièrement. Vous voyez donc, voilà, quand dans le couple, le conjoint souvent nous aide à nous voir tel que nous sommes régulièrement aussi. Si tu planes un peu trop haut, eh ben voilà, tu as tes fils, tu as tes enfants aussi qui te rappellent. Voilà, et ça fait du bien et on en a besoin. Donc voilà, on n'est pas seul dans cette pièce, le Saint-Esprit est avec nous. Je ne sais pas, ça serait intéressant, on n'a pas vraiment le temps, mais de voir comment la dernière fois que tu t'es vu en lui, comment il t'a vu, En général, on est bouleversé. En général, quand on saisit comment il nous voit, lui, on est bouleversé. On est changé. La première réaction, mais Seigneur, je ne mérite pas. Mais ce n'est pas une histoire de mérite. On se sent indigne de cet amour, de ce regard inconditionnel. C'est faramineux. C'est faramineux. Voilà. Et la bannière, on a chanté la bannière qui est sur nous, c'est l'amour. Ça, c'est se voir en lui. C'est-à-dire, on se voit avec la bannière. Ce n'est pas la condamnation, mais c'est la bannière de l'amour. Voilà. Alors, il y aurait des choses à dire encore dans cette salle de bain. Et peut-être, je vous ai imaginé aussi, peut-être chacun de vous, qu'est-ce que je pourrais aussi vivre dans cette salle de bain. C'est le lieu de la fraîcheur aussi. À Toulon, on a eu du 38 degrés, je peux vous dire que la salle de bain avec une douche froide, ça fait du bien. Au lieu de rafraîchissement. Voilà. Et puis, le bureau. Le bureau, alors vous savez, là, je viens de Toulon, de la maison de mon papa, et il y a le bureau dans cette maison. Et jusqu'à, oui, il a 95 ans, tous les matins, il était dans son bureau. Alors à la fin, c'était une grosse toupe, il avait plein de loupes là. Grosse soupe parce qu'il voyait plus grand chose, mais il avait la Bible, les concordances, le dictionnaire Emmaüs, et ça monte comme ça, et puis des ouvrages aussi de catholiques, de prions ensemble, et puis avec tout ça, il restait là, et puis il lisait, et tous les matins, c'était dans son bureau. Donc moi, j'ai, si vous voulez, j'ai un exemple du bureau qui est particulier, et cette pièce est une pièce aussi de Dieu. Et c'est la pièce de la méditation des Écritures, c'est la pièce aussi du travail des Écritures. C'est le bureau. Voilà. Et puis, la place centrale que doit prendre la parole de Dieu, lieu d'inspiration, lieu de révélation, lieu de recherche. Alors, vous savez, la révélation, ça ne dépend pas de toi. Tu as Dieu, puis Dieu tout d'un coup te montre quelque chose. Ça, c'est la révélation de Dieu. Et on a besoin de la révélation de Dieu. Mais l'inspiration, ça vient aussi de lui. Mais l'inspiration, c'est quand tu le cherches. Tu le cherches. Et il utilise ton âme, ton intelligence, tout ça pour ouvrir, souffler là-dedans et t'inspirer. Voilà. Ça vient du dedans. Il veut t'inspirer. Il veut souffler dans ton intelligence. Et le Seigneur est un Dieu qui veut qu'on étudie sa parole. Alors les Juifs sont un exemple merveilleux de l'étude. Et je vous rappelle que le mot étudier, en yiddish, le dialecte des Juifs dans les pays d'Allemagne, ça c'est adorer. Adorer, c'est étudier. Étudier, c'est adorer. Donc, cette confrontation aux Écritures, Dieu cherche un peuple qui le connaisse dans le bureau. Alors la chambre des enfants, c'est bien, il y a les jouets, il y a l'amour du Père, et c'est super. Va un peu dans la salle de bain. Une fois que tu es allé dans la salle de bain, va un peu dans le bureau et commence à travailler les Écritures. Et vous savez, cette recherche de l'intimité, c'est pas facile. C'est pas facile. Vraiment. Et c'est jamais acquis. Moi, parfois, j'ai eu des périodes où je me suis dit, ça y est, c'est acquis, c'est bon, mais c'est pas vrai. Après, tu as les enfants, les petits-enfants, les mails, tout ça. Et je peux vous dire, c'est jamais acquis. Et je dirais qu'il y a trois choses qui vont à l'encontre de l'intimité dans notre société moderne. Et pour vivre dans ce bureau pleinement, on a besoin d'être conscient de ces trois choses qui vont à l'encontre. La marche par la foi et non par la vue, ça c'est aux antipodes de la société moderne. En tant qu'Église, nous sommes dans une période où il faut marcher par la foi. Vraiment. Nous sommes sous des tentes, le bâtiment est à côté. On vit un truc de dingue. Un jour, on racontera à nos enfants ces périodes-là. Il faut y goûter aussi, parce que le Seigneur nous forme dans cette période-là. D'ailleurs, je vois le pompier à Colmar le 18 août, avec le papa de Fabrice et Julie. C'est le pompier en charge de notre dossier. Et c'est lui qui va pouvoir nous dire quelles sont les choses à lever pour qu'on puisse avoir l'autorisation du public. Donc c'est le 18 août, je vous le dis déjà, j'informerai l'église par mail. Voilà. Mais c'est un temps de marche par la foi et non par la vue. Donc ça, c'est aux antipodes de la société moderne qui regarde les résultats, qui regarde tout ça. Ensuite, les temps de solitude dans la présence de quelqu'un qu'on ne voit pas, eh bien ça, c'est aux antipodes de notre société où on aime toutes les relations superficielles, où on est dans une... où il faut nous voir, quoi. Il y en a qui vivent avec le portable sans arrêt à se prendre en photo, quoi. Voilà, et on vit par l'image, voilà. Tu vois où je suis, là. Tu vois ce que je mange, là. Tu vois ce que... Bon, je veux pas critiquer. C'est bizarre, ça. C'est quand même bizarre. Mais ces gens-là qui vivent avec sans arrêt le besoin de l'image, je doute qu'ils puissent rester quelque temps sans image, sans bruit, sans son, sans rien, avec un texte devant. Le texte aussi, plus l'image, un texte, la Bible, caractère des petits. C'est quand même pas évident. Donc on est vraiment aux antipodes d'une société qui ne nous aide pas dans cette chambre du bureau. Osée chapitre 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi soudaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Vous avez remarqué, je relis. Hein. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. 1. Donc, c'est l'emphase sur la connaissance, la recherche de Dieu. 1. 2. Qu'est-ce qu'il est dit ? Sa venue est aussi certaine que l'aurore. 3. Il viendra pour nous comme la pluie. Mais si tu enlèves la recherche, il n'y a plus de pluie, il n'y a plus de venue. Et dans la Bible, le mot « chercher l'Éternel », il revient tellement souvent, tellement souvent. Dieu aime se laisser trouver, mais par ceux qui le cherchent. Et même Jésus va appuyer là-dessus. En disant, cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. En fait, ce n'est pas des choses toutes cuites. Et Dieu veut un peuple qui le cherche parce qu'il veut faire descendre sa pluie. Et la pluie, elle est certaine quand on le cherche. Donc on ne peut pas dissocier la relation avec Dieu d'une connaissance de sa parole, d'une recherche de sa parole, d'une méditation des Écritures. Et par exemple, cette soif de l'hébreu, vous savez, la réforme en France, elle est venue avec des gens qui ont dit « Il faut qu'on connaisse mieux l'Éternel, donc il faut qu'on connaisse mieux les Écritures, donc il faut qu'on connaisse le texte original, donc on va se mettre à l'hébreu et au grec. » Et ça, ça a donné quoi ? Ça a donné la réforme en France. Donc, c'est cette recherche de Dieu. Et ça a été fait par, c'était des Érasmes, des gens de la Renaissance, tous ces humanistes-là. Eh bien, il y avait une soif de Dieu qui était là. C'était tous des chrétiens, entre parenthèses. Mais vous voyez des chrétiens qui cherchaient dans les Écritures, qui ont étudié, qui ont pris du temps. Alors, ce n'est pas donné à tous d'être intellectuels, comme on dit. Mais tout le monde a une intelligence. Et cette intelligence, elle doit être travaillée. Et elle doit être travaillée pour Dieu. Elle est pour le Seigneur, l'intelligence qu'il nous a donnée. Donc, voyez, nous avons besoin de... Le mot « transformation ». Dans Romains 12, hein, soyez transformés dans l'intelligence. C'est le même mot que l'on retrouve lorsqu'il est dit oh, « Je suis appelé à le contempler et je suis transformé à la même image. » Donc, il y a un lien entre la recherche de Dieu et puis la transformation. Donc, je vous invite dans ce temps d'été, c'est parfois plus propice que d'autres, à rechercher le Seigneur. Alors, il y a... Je ne sais pas combien... On a parlé de la parole déjà l'année passée, mais Nicolas nous rappelle qu'il y a... Ça, c'est son truc à lui. Il y a trois façons de lire la Bible. Donc, dans ce bureau, tu as trois façons de la lire. Je ne sais pas quelle est votre façon à vous, mais peut-être vous allez vous trouver dans une de ces trois. Ceux qui ont écouté Nicolas, peut-être vous le savez. Je ne sais pas si tu as entendu, Nicolas, sur les lectures de la Bible ou...
Pas tant.
C'était l'année prochaine. Il y a la lecture qu'on appelle la lecture dévotionnelle. C'est-à-dire, je lis la Bible pour me nourrir spirituellement et pour qu'il me parle personnellement. Donc, c'est une lecture intimiste, si vous voulez. Tu lis, on met au hasard à la limite et puis tu t'attends à ce que Dieu te parle. C'est une lecture importante. C'est une lecture dévotionnelle. Voilà, ça reste irremplaçable. Donc il faudrait que tout le monde reçoivent la même chose que tu as reçu. Donc attention, tu ne fais pas attention au contexte de la lecture, le contexte, ben oui, mais le contexte, il est important. Donc tu peux dérailler, si tu veux, si tu restes dans cette lecture seule. Mais si tu ne vis pas cette lecture, tu dérailles aussi, parce qu'il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de recherche de Dieu qui te parle. Moi, je me rappelle, rappelez-vous, la première fois où Dieu m'a parlé par sa parole, je venais de me faire casser la gueule à Lyon, dans la rue piétonne Victor Hugo. On me vendait des cigarettes, j'en avais pas. Une première baffe, deuxième baffe, mes lunettes tombent à terre, troisième baffe, ils sortent tous avec les ceintures à clous qui font tourner comme ça. Je vous dis pas. Bon, il y a une connaissance qui est arrivée, je ne sais pas ce qui s'est passé, le groupe s'est ouvert, on a pu partir, j'étais avec Manuela. Et le soir, j'étais tout jeune chrétien, j'ai dit, mais Seigneur, moi je suis allé dans Lyon pour témoigner à mes amis et je me fais frapper dessus. Où es-tu, Seigneur ? Je prends la Bible, là, Proverbe, chapitre 3. Quand la terreur soudaine vient, tiens, ça peut venir en tant que chrétien, une terreur soudaine ? Bah oui. Ne crains pas, car je suis avec toi. Proverbe 3. Bon, alors je commence à me calmer, je dis, est-ce que Dieu me parle là, tu sais ? Il me dit, non, il faut que je dorme. Verset du dessus. Quand tu te coucheras, ouf, ton sommeil sera doux. Pour la première fois, Dieu m'a parlé personnellement au travers de sa parole. Ça, c'est la lecture dévotionnelle. Elle ne suffit pas. La deuxième façon de lire, c'est la lecture d'études. J'étudie la parole. J'étudie la... Non pas pour ce qu'elle me dit personnellement, mais pour ce qu'elle dit véritablement. Ce qu'elle dit, ce que le texte veut dire véritablement, et pas à toi seulement personnellement. Donc là, il y a des règles. Il y a des règles d'interprétation, d'exégèse. Je dois regarder le contexte. Je dois regarder ce que les mots veulent dire. Je dois... Ça, c'est l'étude. C'est ce qu'on appelle le terme d'exégèse. Donc on est... Dieu nous aide là-dedans, mais il veut qu'on soit des gens qui sachions étudier les Écritures. Et vous savez, ces règles, ce que la Bible dit véritablement, c'est tellement important. Dans l'histoire de l'Église, parfois, des gens, ils ont pris des textes hors contexte, mais c'était une aberration. Il y a des textes, par exemple, qui sont pour Israël, et puis on les a pris pour l'Église, et on a fait des contresens magistraux, et etc., etc. Donc, attention. Et c'est pour ça que Dieu dit, on est un corps, on est une famille, on a besoin de, voilà, ce que je pense avoir compris, qu'est-ce que toi t'as compris, comment tu as vu toi. Voilà, mais pas tout seul dans cette étude. Et puis il y a l'étude, la dernière, c'est quand on veut apporter à d'autres. Je pense aux enseignants pour des enfants, je pense à la prédication. Donc on lit la Bible, on l'étudie pour la communiquer à d'autres. Nicolas appelle ça l'étude, la lecture prophétique. Donc on a besoin pour la transmettre, le message. Donc ces trois lectures sont importantes. Ne te contente pas de la lecture dévotionnelle. Il faut une lecture de lecture aussi. Et ne te contente pas que de l'étude. Sinon c'est froid, tu vas te dessécher. Tu as besoin. Et puis la lecture prophétique, tu as besoin de la partager. Donc voilà. Et dans le ministère que tu as, si tu travailles dans le social, si tu travailles dans l'éducatif, si tu travailles dans l'économie, eh bien, travaille cette parole pour voir qu'est-ce qu'elle dit dans le domaine dans lequel Dieu t'appelle. Donc voilà, ce matin, on a fait trois pièces. Il y aura encore le jardin, la cuisine, la salle de séjour, la chambre des parents et le grenier. Et ça, je laisse pour d'autres fois. Et ça, c'est dans ce livre de Nicolas, vous voyez, qui s'appelle « Revenez à Bethel, la maison de l'intimité ». Et je trouve que c'est très parlant parce que ce côté concret des différentes pièces correspond à une vérité des Écritures. Il y a des appartements dans la maison de Dieu. Il y a des pièces. Si tu en as découvert une, ne te contente pas de celle-là. Il y en a d'autres à découvrir. Il y en a d'autres. Alors moi, je suis par exemple plus à l'aise dans certaines pièces. Le bureau, moi, j'aime bien. Moi. Le bureau, j'aime bien. Les bouquins, tout ça, j'aime bien. Mais il n'y a pas que le bureau. Et voilà, il y a une salle de... Allez, un tour à la salle de bain là, et vous allez voir, les tours dans le jardin sont succulents aussi, on en a besoin. Donc voilà, on veut simplement prier, et vraiment je prie dans ce sens que Dieu nous aide à développer l'intimité. Seigneur, merci pour ta parole, et merci pour la maison que nous sommes, mais aussi la maison que tu es, et ces appartements dans lesquels tu nous veux faire entrer. Dans la maison du vin, ça veut dire la maison de ta présence. Et là, on ne s'ennuie pas parce qu'il y a tellement à découvrir. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, afin qu'on puisse goûter pleinement, rentrer par la seule porte qui est Jésus-Christ. Et ensuite, ne pas se contenter à rester à la porte, mais commencer à découvrir pièce par pièce les différents aspects de l'intimité avec toi et les connaissances de ta personne dans toutes ces merveilleuses facettes. Seigneur, je prie pour chacun, pour que cet été soit fructueux en lecture, en recherche de toi, en rafraîchissement, en découverte. Merci pour la bannière qui est l'amour sur chacun de nous. Seigneur, je te prie, nous apprends ta bénédiction sur tous ceux qui sont en vacances, en congé. Fais-leur du bien, Seigneur. Et nous appelons ta bénédiction sur nous aussi qui sommes là. Seigneur, fais-nous du bien. Merci pour la famille que nous formons. Fais de nous une famille de chercheurs de l'Éternel, de passionnés de toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci pour cette échelle de Jacob, ces deux barres verticales de l'Esprit et de la Parole, ces barreaux qui nous élèvent jusqu'à plus de toi. Merci, Seigneur, pour le ciel qui est appelé à descendre sur la terre. Merci pour les anges qui montent et qui descendent aujourd'hui encore. Merci parce que tu es un Dieu qui parle et tu es un Père qui parle sur nos vies et sur notre pays et sur les nations. Seigneur, que ta bénédiction repose vraiment sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Alléluia.